Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Maurice et Sigler, retour à la case prison. Un épisode de Faites entrer l'accusé, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
Après plusieurs refus, Sigler accepte finalement de rencontrer la psychologue mandatée par le juge.
Valérie Ritzenthaler, psychologue.
C'est quelqu'un qui est extrêmement méfiant, constamment en hypervigilance vis-à-vis d'autrui, qui perçoit le monde extérieur comme extrêmement menaçant. C'est quelqu'un d'interprétatif, c'est-à-dire qu'un geste, un regard, une parole, un demi-mot même peut avoir pour lui l'effet d'une menace à laquelle il doit répondre.
Sigler a du mal à parler de son enfance. Il dit qu'il est né à Belfort, qu'il a commencé à fuguer et à voler vers 13 ans. Il dit aussi qu'il a été maltraité. Son père le frappait et l'attachait dehors, avec un collier étrangleur pour chien.
Il aurait éventuellement été abusé par un oncle. Et surtout, ce qui est à repérer, c'est qu'il pointe tout le temps la mère comme ayant été absente, n'ayant pas posé de regard sur lui et ne lui ayant pas tendu la main.
En 87, à l'âge de 20 ans, Sigler a été condamné à 10 ans de prison pour meurtre. Sa victime aurait voulu le forcer à avoir des relations homosexuelles. Il l'a étranglé. En prison, Frank Sigler se bat avec les autres détenus, agresse les gardiens, passe son temps à l'isolement.
Maître Karine Laprévotte, avocate de Frank Sigler.
Frank Sigler, en arrivant en détention, était un jeune comme tous les autres qui s'est construit un personnage. Et il s'est construit un personnage d'autant plus fort parce qu'il avait ce vécu de victime auparavant. Donc en arrivant en détention, Frank Sigler a voulu se montrer plus fort, plus agressif que les autres. Son personnage, finalement, c'est quelqu'un de dur, quelqu'un de menaçant, quelqu'un d'agressif, quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de parler. Son regard peut suffire.
Sigler raconte beaucoup d'histoires à ses codétenus. Toujours des histoires de meurtre qu'il aurait commis.
Brigadier chef Pierre H, police judiciaire de Mulhouse.
Frank Sigler, en fait, c'est, on va dire, l'être moyen, sans aucune envergure, mais qui veut passer pour le caïd. Ça veut être le beau voyou, ça, il aimerait être un mesrine, quoi.
Valérie Ritzenthaler, psychologue.
Il aime se vanter, il aime mettre en avant le fait qu'il serait un grand tueur, qu'il serait violent. Il aime faire peur aux autres et jouer de cette angoisse qu'il suscite chez l'autre parce que ça vient lui donner enfin un peu de consistance.
Donc vraiment un bon mythomane et quelqu'un qui peut être très dangereux parce que pour alimenter cette espèce d'image de lui, bah, s'il faut tuer, ça ne va pas poser problème.
Si Sigler n'est pas le tueur en série qu'il prétend, il a quand même passé 23 ans en prison. Pour homicide, violence avec arme, vol, contrefaçon et plusieurs tentatives d'évasion. Il a séjourné dans près de 30 établissements pénitentiaires. Le seul où il s'est acclimaté, c'est la prison de Château-Thierry. Elle accueille les cas difficiles et les prisonniers atteints de troubles psychiatriques. Sigler a été interné plusieurs fois après des épisodes de démence. Même si ses proches sont unanimes, il sait très bien ce qu'il fait.
En fait, ils nous disent tous, c'est quelqu'un d'intelligent qui est complètement manipulateur. Et il a le chic pour choisir les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il va tout de suite voir les personnes fragiles, les personnes qui ont des failles, les personnes faibles, sur lesquelles il aura de l'emprise. Et là, il va pouvoir jouer un petit peu le maître. Et là, ça va être la marionnette dans les mains de Frank Sigler.
Manipulateur, Sigler l'est aussi quand il tente de justifier son premier meurtre et ses différents passages à l'acte. Il tue pour faire justice.
Le discours que tient Frank Sigler après avoir tué quelqu'un, c'est qu'il aurait tué quelqu'un qui aurait pu menacer la vie d'un enfant, qui aurait pu agresser un enfant. C'est un discours dans l'après-coup, c'est une reconstruction qu'il fait pour se mettre en valeur, pour être en position de héros.
Mais cette fois, Sigler nie. Il n'a pas tué Philippe Vuillet. Même si la psychologue décèle chez lui une violence compatible avec ce crime.
qui est particulier dans ce meurtre, c'est effectivement l'aspect extrêmement sadique, les violences qui ont été faites, les maltraitances, les actes extrêmement violents, la torture pratiquement qui a été faite sur cet homme avant effectivement d'en arriver jusqu'à le tuer. C'est assez rare, hein, surtout sans mobile particulier, si ce n'est de laisser aller ses pulsions sadiques. Ça, c'est très particulier effectivement à Frank Ziegler, à son type de personnalité, et c'est en quoi c'est quelqu'un de particulièrement dangereux, et c'est un cas assez rare au niveau clinique.
Dominique, des tests ADN ont été réalisés. Est-ce qu'ils permettent de déterminer un peu mieux le rôle de chacun ?
Oui, on sait, Frédéric, que Maurice et Ziegler sont montés dans la Clio de Philippe Vuillet. On le sait parce que sur une bombe lacrymogène retrouvée à l'intérieur, il y a l'ADN de Ziegler. On le sait parce que sur une serviette éponge, il y a l'ADN de Maurice et aussi celui de Ziegler. L'élément très intéressant, c'est l'ADN qu'on retrouve sur la ceinture qui a servi à attacher Philippe Vuillet. Il y a l'ADN de Vuillet, évidemment, puisqu'il était attaché avec, mais il y a aussi l'ADN de Ziegler. Et les avocats de Ziegler vont dire, à la belle affaire, l'ADN de Ziegler sur sa propre ceinture, ça ne nous apprend pas grand-chose. Mais le juge et les enquêteurs vont dire, ce qui est intéressant, c'est que l'ADN de Ziegler, il est sur la scène de crime. Et c'est ça qui est intéressant.
Pour les policiers, il n'y a pas que l'ADN qui accable Ziegler. Il y a aussi la mise en scène du crime.
Et la signature Ziegler, Frédéric. On retrouve Philippe Vuillet avec un lien autour du cou. Et ça peut correspondre à une symbolique, quand il était enfant, que son père l'attachait avec un collier de chien et une laisse, attaché par le cou, comme Philippe Vuillet. Autre chose encore, Philippe Vuillet étranglé, Philippe Vuillet frappé, Philippe Vuillet dépouillé de son téléphone portable, de son chéquier, de tous ses papiers d'identité. Et ça rappelle en 1987, lorsque Ziegler avait été condamné pour un meurtre. Il avait étranglé sa victime, déjà. Il l'avait frappée à la tête avec une latte en bois. Il avait tenté en vain de la pendre avec une corde à linge. Et il l'avait dépouillée de tous ses papiers. Ça ressemble quand même sacrément au meurtre de Philippe Vuillet. Dernier point, il y a une autre affaire en 1998 où Ziegler va prendre 10 ans de prison pour avoir agresser les parents d'une amie, et il les a agressés comment ? Avec une bombe lacrymogène, comme dans l'affaire Vuillet. Et il leur a volé leur voiture, volé leurs papiers, il a falsifié des chèques. Et dernier point, déjà à cette époque, il a fait état d'un projet de départ en Espagne.
On pourrait presque parler de mode opératoire, en fait.
C'est un mode opératoire, c'est la signature Ziegler.
Maître Sébastien Schmitt, vous êtes l'avocat de Frank Ziegler. C'est quand même un drôle de personnage, votre client. Qu'est-ce que vous avez pensé en le voyant pour la première fois ?
Alors, en le voyant pour la première fois, je dirais j'ai un préjugé très défavorable en me disant que je vais tomber sur quelqu'un de dangereux, peut-être même pour moi. Je m'attends à voir un petit peu Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, enchaîné, masqué. Et heureusement, je dirais, les surveillants me disent très rapidement que c'est quelqu'un qui, bon, certes, a peut-être eu quelques incidents à peine arrivé au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, mais qu'en fait, c'est quelqu'un qui se comporte très bien, qui n'a pas de soucis, et je vois arriver un individu qui présente bien, qui s'exprime bien, qui est très calme, très posé. Voilà, très bonne impression.
Et tout semble accuser votre client. Est-ce que vous avez des billes pour contrecarrer ces éléments de l'accusation ?
C'est Robert Maurice qui accuse Frank Ziegler, qui le charge un maximum, cette bonne guerre. Il est le premier à avoir été entendu par le magistrat instructeur. Il sort sa petite histoire, sa version des faits. Après, il y a quelques éléments de l'ADN, la ceinture de Frank Ziegler. Je dirais, ce ne sont pas des éléments qui accablent de manière, je dirais, fatidique.
Il y a le mode opératoire, quand même.
Savoir qu'un tel ou tel autre a commis un crime de telle ou telle manière, on peut aussi reproduire ce même mode opératoire pour éventuellement le faire accuser, ou simplement parce qu'on s'en est inspiré.
Vous voulez dire que Maurice était en détention avec Ziegler et qu'il peut avoir reproduit le mode opératoire de Ziegler lors de son premier meurtre ?
Je ne sais pas s'ils ont, je dirais, raconté leur fait d'armes, si on peut s'exprimer ainsi, mais il est fort probable qu'il n'ait pas non plus simplement parlé que de la pluie et du beau temps. C'est aussi un peu la règle des discussions et conversations de prison.
Selon vous, dans cette affaire, lequel vraiment a de l'ascendant sur l'autre ?
Quand ils se sont connus en détention, Ziegler est un jeune prisonnier d'une vingtaine d'années. Maurice a 12-13 ans de plus que lui. Et on sait qu'effectivement, à ce niveau-là, l'âge, l'ancienneté font que, généralement, sauf cas exceptionnel, le plus ancien a toujours l'ascendant, même des années après.
Les policiers reconstituent maintenant la cavale de Frank Ziegler. Un parcours qu'ils retracent facilement grâce au chèque et au téléphone portable qu'il a volé à Philippe Vuillet. Ils veulent aussi vérifier si Ziegler n'a pas commis d'autres crimes pendant sa fuite.
Le 13 mars 2007, Frank Ziegler bénéficie d'une permission de sortir. Mais le soir, il ne rentre pas en prison. Le 14, il est verbalisé dans le train 1041 entre Paris et Belfort. Deux jours plus tard, son nom apparaît dans les registres de l'armée du salut à Mulhouse. Le lendemain, à 19h30, Ziegler réussit à joindre Maurice et s'installe chez lui. C'est là qu'il rencontre Philippe.
Brigadier chef Pierre H., police judiciaire de Mulhouse.
À ce moment-là, Frank Ziegler, il a besoin d'un véhicule. Et en plus, là, Philippe Vuillet a un véhicule et il a des papiers. Qui peuvent passer pour les papiers de... les photographies qui sont sur les papiers de Philippe Vuillet peuvent passer pour Frank Ziegler, donc ça intéresse doublement. La voiture et les papiers, c'est pain béni pour lui.
Le 20 mars, Philippe disparaît. À 22h15, Ziegler et Maurice quittent Mulhouse pour l'Espagne, avec sa Clio. Quelques heures plus tard, Ziegler largue Maurice à Belfort. Le 22, il emboutit la Clio sur l'autoroute de Dijon. Il l'abandonne sur place et prend un taxi qu'il paie avec l'un des chèques de Philippe. Le chauffeur le reconnaît formellement. Ensuite, il retourne en Alsace pour voler la Corsa de Sylvie. Il avait les clés, il les avait prises à Philippe. Avec cette voiture, Ziegler fait un grand tour dans le sud de la France. Le 26 mars, il est dans l'Hérault, près de Béziers, où il passe un coup de fil à Sylvie en se faisant passer pour un détective privé à l'accent méridional.
Sylvie, compagne de Philippe Vuillet.
Je pense qu'il appelait surtout pour se renseigner. Et ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'arrête l'enquête. Voilà, il voulait que j'arrête l'enquête pour Philippe parce que ça lui portait danger. Hein, c'était ça le motif de l'appel.
Mais Ziegler aurait mieux fait de se taire. Son appel a fini de persuader Sylvie et ses beaux-parents qu'il était arrivé quelque chose de grave à Philippe. Et il aurait dû éviter de téléphoner à sa copine à Paris. Depuis qu'il s'est fait la belle de la prison de Meaux, les policiers sont à sa recherche et ils ont placé sur écoute le téléphone de sa petite amie.
Là, je suis pas encore arrivé parce que j'ai dû faire un petit détour à cause de la police.
C'est pas vrai.
Ouais.
Pourquoi tu les as vus? Alors t'as fait un détour?
Ben, il y avait un barrage. J'avais pas trop le choix. J'étais obligé de faire demi-tour.
Brigadier chef Pierre H., police judiciaire de Mulhouse.
Il déclare à sa compagne, oui, mais là, je suis en cavale. Et puis, il s'invente une espèce de, voilà, de mystère. Des gens m'ont fourni ceci. Tu comprends, je suis menacé. J'ai une arme parce que pour me défendre, on ne sait jamais. J'ai des gens qui me recherchent, etc. Donc, il s'invente une espèce d'enveloppe de caïd qu'il aime bien. Voilà, ça, c'est du Frank Ziegler.
Ah, c'est galère.
C'est galère?
Ah ouais, il y a un enculé qui a appelé les flics.
C'est pas vrai.
Ouais, ouais.
Oh,
il y a quelqu'un qui m'a prévenu, mais...
Le 27 mars, Ziegler est de retour à Paris. Il se balade en région parisienne, puis il part à Reims et à Château-Thierry. Il essaye de retrouver d'anciennes connaissances. Il semble avoir besoin d'argent et il a une idée.
Je vais essayer un truc lundi.
Ouais.
Ouais. Que j'ai les papiers lourds, puis qu'il m'a fait une vacherie. Eh ben, je vais lui en faire une de vacherie.
À Titi?
Non, non, à Philippe.
Ah oui?
Ouais, ouais. Je vais faire un crédit de 15 000 euros, je vais les encaisser et je vais les sortir. Puis je lui dirai, ça c'est dommage à l'intérêt. Disant, merde, ce que tu m'as fait.
Ouais.
Je peux m'en faire 2-3, je vais pas me faire chier, je vais coller 10 000, je vais mettre 30 000 sur le dos. Ah, il va être content.
Oh. Ouais, il va être content là.
Mais Ziegler n'aura pas le temps de passer à la caisse. Le 5 avril, il est arrêté à Paris.
Un an et demi après le meurtre, Ziegler sort enfin du silence. Il accepte maintenant de donner sa version des faits.
Le 26 mars 2008, Ziegler adresse une nouvelle lettre au juge Galland. Il est prêt à parler cette fois. Il écrit que Maurice voulait donner une leçon à l'un de ses amis parce qu'il avait tripoté des gosses. Cet homme, c'est Philippe. Maurice l'a fait venir chez lui, il l'a drogué avec du Subutex. Ziegler l'a seulement aidé à ficeler Philippe.
Stéphane Galland, juge d'instruction.
Frank Ziegler explique qu'en effet, il s'est trouvé dans le véhicule Renault Clio avec Robert Maurice, mais que c'est Robert Maurice seul qui aurait emmené la victime dans l'endroit isolé où celle-ci a trouvé la mort. Frank Ziegler explique que lui, à ce moment-là, se trouve sur le parking d'un supermarché où Robert Maurice l'a laissé sous le prétexte d'aller donner une leçon à la victime, Philippe Vuillet.
D'après Ziegler, Maurice est revenu tout seul. Il lui a dit qu'il avait attaché Philippe à un arbre. Ensuite, ils sont partis ensemble à Belfort, où Ziegler a abandonné Maurice parce qu'il trouvait étrange qu'il n'aille pas libérer Philippe. Quant à sa ceinture qui a été retrouvée autour des poignets de la victime, Ziegler affirme que Maurice l'a utilisée pour le faire accuser.
Maître Karine Laprévotte, avocate de Frank Ziegler.
Il va expliquer la présence de sa ceinture en expliquant tout simplement que sa ceinture s'est cassée, qu'il l'a jetée donc dans la poubelle de l'appartement de Robert Maurice et que c'est Robert Maurice qui a pris la ceinture de Frank Ziegler pour attacher Philippe Vuillet.
8 mois plus tard, plus d'un an et demi après le meurtre, Frank Ziegler accepte enfin de se rendre chez le juge. Et là, il donne encore une nouvelle version.
Il indique, lors du seul interrogatoire au cours duquel il se sera exprimé, qu'il était bien physiquement présent sur les lieux, à l'endroit où Philippe Vuillet a trouvé la mort. Et il indique également qu'il a pris une part active aux violences qui ont été infligées à Philippe Vuillet et qui ont conduit à son décès.
Ziegler raconte que c'est Maurice qui a porté les coups de manivelle sur la nuque de Philippe. Mais il reconnaît qu'ils l'ont étranglé tous les deux.
D'après les indications données par Frank Ziegler, Robert Maurice et lui auraient chacun tenu une extrémité du lien qui a servi à étrangler Philippe Vuillet et auraient chacun tiré un côté de ce lien. Je crois que lorsque Frank Ziegler fait cette déclaration-là, personne n'est dupe. Son idée, c'est simplement de dire ou de montrer que Robert Maurice est autant que lui responsable de la survenance de la mort de Philippe Vuillet.
Maître Sébastien Schmitt, pendant son audition devant le juge, Ziegler a enfin reconnu qu'il était présent sur les lieux. Et même qu'il a aidé Maurice à étrangler Vuillet. Ces déclarations, elles mettent à mal votre système de défense.
J'aurais tendance à dire qu'il faut se méfier de la religion de l'aveu. On a la preuve dans ce dossier par un certain nombre de déclarations. Il va s'accuser du meurtre d'un codétenu et surtout il va s'accuser d'avoir eu une sorte de parcours, je dirais, criminel dans toute la France avec 22, 23 personnes qui l'auraient tué. Et les vérifications sont faites et on se rendra compte qu'il n'en a rien été.
Votre client peut s'accuser d'un meurtre qu'il n'a pas commis.
Ça fait partie aussi du personnage que se façonne Frank Ziegler, je dirais, pour se protéger, cette carapace qu'il se forge. Et c'est aussi, je pense, à ce moment-là, le petit jeu du chat et de la souris qu'il a décidé de jouer avec le magistrat instructeur.
Quel intérêt il pouvait avoir à s'accuser comme ça d'un meurtre ?
Il m'expliquera à ce moment-là que sa compagne, qui est déjà mise en examen pour recel ou destruction de preuves, était, semble-t-il, susceptible de faire l'objet d'une mise en examen supplétive pour recel de malfaiteur, pour lui venir en aide, pour pas que le juge d'instruction l'embête davantage. Il passe les aveux que l'on attend de lui.
En attendant, il est quand même le seul des deux qui a un vrai mobile.
Si vous voulez, j'ai vraiment peine à croire, par rapport à la personnalité de Frank Ziegler et son intelligence, qu'il puisse, alors même qu'il a tué quelqu'un, que cette personne a été abandonnée dans la nature et que n'importe quel promeneur ou agriculteur est susceptible de la retrouver dans les 24 heures ou 48 heures qui suivent, et qu'à ce moment-là, le branle-bas de combat se met en route pour retrouver les auteurs, et surtout, je le vois mal utiliser ses papiers, ses chéquiers pendant toute cette cavale, surtout s'il sait que la personne a été tuée. Je ne pense pas que ça soit le mobile, je suis même certain que ce n'est pas le cas.
Laurent Guy, à la fin de l'instruction, Ziegler et Maurice ont donné chacun leur version des faits. Selon vous, quel est le scénario le plus crédible ?
Laurent Guy, vice-procureur de Colmar.
Ni l'une ni l'autre ne sont totalement crédibles. Il y a sans doute du vrai dans les deux. Il est clair que l'un sans l'autre ne l'aurait pas fait.
Quel mobile vous retenez ?
Pour ce qui est de Frank Ziegler, le mobile il est assez évident. C'est celui de la nécessité d'avoir de quoi subsister pendant sa cavale. C'est avoir un véhicule, avoir des papiers, avoir une identité. Et pour Robert Maurice, je pense que Frank Ziegler, c'est l'ancien compagnon de détention,
qui déboule dans sa vie à Mulhouse le 17 mars, qui fait peut-être ressurgir le passé. Robert Maurice est quelqu'un qui vit seul dans un appartement social à Mulhouse, qui a des relations mais relativement pauvres, des petits boulots à droite à gauche, et Frank Ziegler lui parle de partir en Espagne, de descendre vers le sud, d'avoir un véhicule. Par conséquent, je pense que peut-être effectivement c'est un changement de vie, et on s'aperçoit aussi par rapport aux confidences qu'il fait aux personnes qui fréquentent la même association que lui, qu'il considère que Philippe Vuillet est un peu trop collant, qu'il vient trop souvent chez lui, qu'il y reste trop longtemps dans la journée. Donc, quelqu'un d'irritant peut-être à la longue, et peut-être que, effectivement, ce ressentiment s'est traduit en acte de violence par la suite.
Robert Maurice et Frank Ziegler sont renvoyés devant les assises du Haut-Rhin pour assassinat. Le procès s'ouvre en décembre 2009 à Colmar.
Jusqu'au dernier moment, Ziegler a laissé planer le doute. Viendra ou viendra pas ? Il est venu dès le premier jour. Dans le box, il n'a retrouvé que Maurice, puisque sa compagne avait finalement bénéficié d'un non-lieu.
Marie-Lise Perrin, journaliste à l'Alsace.
On se retrouve confronté en tout cas à deux personnalités qui sont totalement différentes quand elles entrent dans la cour. Ziegler a une présence à la John Malkovich, il en a déjà le physique, un petit peu. Et il émane de lui quelque chose de mystérieux, on a l'impression qu'il est intelligent, il est troublant, on a envie d'en savoir plus à son sujet. Tandis que Maurice, dès le début, c'est l'homme qui n'est pas gâté par la nature, il est petit, il n'est pas beau. Maurice est quelqu'un qui parle mal, qui comprend mal les questions, qui a l'air un tout petit peu lent.
Ziegler présente mieux, mais il répond à peine aux questions. La strangulation, c'est tous les deux. Les coups, c'est pas moi. Aucun des deux accusés ne reconnaît avoir frappé Philippe Vuillet. Les avocats se renvoient la balle. Pour ceux de Robert Maurice, cet assassinat porte l'empreinte criminelle de Frank Ziegler. Pour ceux de Ziegler, c'est le contraire. C'est Maurice qui a tout manigancé pour se débarrasser de Philippe. Il l'a fait passer pour un pédophile. Il savait que ça ferait réagir Ziegler. Les avocats de Ziegler, eux, s'appuient sur l'expertise du psychiatre pour suggérer que Robert Maurice serait un homosexuel refoulé.
Docteur Bernard Kirzek, expert psychiatre.
Je ne sais pas si Maurice est homosexuel, mais il y a un certain nombre d'éléments qui posent la question, en tout cas, qui posent la question d'une homosexualité inconsciente. À chaque fois que l'on évoque l'homosexualité, Maurice réagit extrêmement violemment. Il ne supporte pas que l'on évoque l'homosexualité en général, ou une possible homosexualité de sa part.
Maurice percevrait les homosexuels comme une menace. C'est ce qui l'aurait poussé à poignarder un homme en 84, et c'est ce qui le ferait sortir de ses gonds quand on suggère qu'il puisse l'être.
Maître Karine Laprévotte, avocate de Frank Ziegler.
Il est possible que Philippe Vuillet ait vu juste et vu clair finalement dans la personnalité de Maurice, et que Maurice finalement ait voulu se débarrasser de Philippe Vuillet parce que ça lui était insupportable. Maurice ne veut pas qu'on renvoie une image de lui sale, selon ses termes.
L'enquête n'a pas permis de conclure si Robert Maurice est homosexuel ou pas. La défense de Ziegler reste donc construite sur une hypothèse.
Marie-Lise Perrin, journaliste à l'Alsace.
C'est une piste qui a été explorée, qui n'a jamais été menée à bout finalement, et au cours du procès, on va pareil l'évoquer, mais jamais aller au bout de cette piste-là. Parce que, évidemment, la piste de l'homosexualité possible ou de la des tendances pédophiles possibles de Robert Maurice, c'est quelque chose de tabou et dont il parlera jamais.
Quant à Ziegler, l'expert psychologue le décrit comme un manipulateur froid. Un être qui s'est construit dans la haine et prend plaisir à tuer.
Valérie Ritzenthaler, psychologue.
C'est quelqu'un qui n'exprime aucun remords, qui n'exprime aucune volonté de changer, qui au contraire va exprimer très clairement le fait qu'il va passer à nouveau à l'acte, le fait qu'il va à nouveau tuer quelqu'un, qui va au contraire se vanter de pouvoir à nouveau tuer et dire que la justice finalement ne pourra pas l'arrêter, qu'il y a une limite. C'est une façon chez lui en fait de demander à ce qu'on mette une limite concrète à ces actes chez lui, une limite concrète au sens d'une incarcération, au sens de murs concrets, parce qu'il ne peut pas autrement y mettre une limite.
Laurent Guy, après avoir supervisé l'enquête, c'est vous qui êtes l'avocat général au procès d'assises. Et qu'est-ce que vous requérez ?
J'ai expliqué au juré qu'à mon sens, il y avait bien une préméditation. Et j'essaye d'expliquer ensuite au juré que Franck Ziegler a besoin de Robert Maurice parce qu'il est l'ami du Vuillet, il peut le faire venir. Robert Maurice a besoin peut-être aussi de l'aide et du dynamisme de Ziegler pour arriver au résultat dramatique que l'on connaît. Par conséquent, j'estime qu'effectivement leur responsabilité est relativement égale dans la mort de Philippe Vuillet, qu'ils sont tous les deux en état de récidive parce qu'ils ont tous les deux déjà été condamnés pour homicide. Donc je décide de requérir la réclusion criminelle à perpétuité. Et pour Franck Ziegler, je requiers une période de sûreté.
Ce premier procès n'a pas réussi à déterminer plus clairement les rôles des uns et des autres.
Non, on en reste finalement à cette énigme sur le déroulement précis des faits une fois que cette voiture est arrêtée entre ces deux bosquets d'arbres au milieu des champs.
Mais l'avocate de Robert Maurice refuse jusqu'au bout qu'on mette les deux hommes dans le même panier. Maurice n'a pas tué. Sa seule responsabilité, car il en a une et il l'assume, c'est d'avoir présenté Philippe à Ziegler.
Maître Delphine Gilbert, avocate de Robert Maurice.
Robert Maurice est bien conscient que c'est celui par lequel, il est celui par lequel le mal est arrivé, puisque c'est lui qui est le lien entre Franck Ziegler et Philippe Vuillet. Sans Robert Maurice, Franck Ziegler, il ne fait pas la connaissance de Philippe Vuillet, donc il a cette première responsabilité-là. Ensuite, il a cette culpabilité d'avoir laissé Franck Ziegler s'installer chez lui, de l'avoir laissé s'en prendre à Philippe Vuillet et d'être resté sans réagir. J'ai donc suggéré à la cour d'assises de le condamner pour ça, pour cette passivité, alors que s'il était intervenu, peut-être qu'il aurait pu empêcher Franck Ziegler de tuer Philippe Vuillet. Et c'est une infraction qui est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement.
Mais les jurés ne sont pas d'accord. Ils mettent les deux accusés sur un pied d'égalité. 30 ans chacun. Assorti pour Ziegler d'une période de sûreté de 20 ans.
Jean-Pierre Vuillet, comment réagissez-vous au moment du verdict ?
On pense que le verdict a été juste. Ils ont jugé Maurice et Ziegler pratiquement les mêmes responsabilités, les mêmes peines.
Il va y avoir un procès en appel.
Oui.
Et que va-t-on apprendre de plus lors de ce procès ?
On va découvrir plus précisément la personnalité de Maurice. Le président de cette session a poussé les accusés dans leur dernier retranchement. Et à un moment donné, ils ont été tellement poussés à bout que Maurice a pris le micro qu'il avait dans lui, a essayé de le casser, de le tordre, et s'est mis dans une colère incroyable. Et on a vu, effectivement, c'est quelqu'un aussi, tout aussi dangereux que l'autre.
Le procès en appel ne changera pas grand-chose. Une nouvelle fois, Robert Maurice prend 30 ans. Franck Ziegler, lui, voit sa peine aggravée. Il écope de la réclusion criminelle à perpétuité.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites Entrer l'Accusé consacré à Maurice et Ziegler. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites Entrer l'Accusé.